Vous êtes sur RTL.
Cet assouplissement, vous allez l'évoquer en juin avec les associations d'élus. Et après, c'est pour quand ?
Et après, il s'agit de ne pas baisser la garde sur la lutte contre la violence routière. Vous savez, moi j'ai été non seulement maire et président de conseil départemental, j'ai été aussi officier de réserve dans la gendarmerie. J'ai été amené à intervenir sur des accidents de la route qui sont absolument dramatiques et qui brisent des vies. Donc je pense qu'il ne faut pas qu'on soit moins 10 ans sur cet objectif qui certes n'est pas toujours très populaire, en tout cas ne rend pas populaire le pouvoir politique lorsqu'il prend des décisions courageuses. Et moi je tiens à saluer l'abnégation et la ténacité d'Edouard Philippe sur le sujet.
Après,
entendu sur le sujet, disant que le Premier ministre ne comprenait rien à rien, qu'on faisait tout ça pour remplir les caisses de l'État. On a entendu beaucoup de sottises sur les 80 km/h et je pense quand même qu'il
de
faut...
De la part des élus.
Non, de la part d'un certain nombre d'opposants qui en ont fait un totem politique.
Ce sont des élus, en général.
Parfois, ce sont certains des élus, pas tous en tout cas. Penser que parfois, un peu de courage en politique, ça peut faire du bien. Est-ce qu'il faut appliquer cette mesure, parfois avec plus de discernement, au plus proche du terrain? La réponse est oui. Ça a été dit par le président de la République dans le cadre du Grand Débat National. Le Premier ministre aura l'occasion de le dire dans les semaines qui viendront, parce qu'il faut bien sûr le négocier avec les élus. Moi, à titre personnel, je suis favorable à ce qu'on puisse avoir quelque chose du type codécision entre le président du conseil départemental, qui a un pouvoir de police sur le réseau des routes départementales, et le préfet de département. J'ai présidé le département de l'Eure, je connais bien mon réseau routier. Il y a des endroits, fondamentalement, il faut rester à 80 km/h et il faut durcir les contrôles. À d'autres endroits, au vu des données statistiques qui sont à la disposition d'un préfet et d'un président de département, on doit pouvoir changer ou moduler les choses.
Donc on ne donnera pas le pouvoir entier et total sur ce sujet au président de département.
Personne ne le sait, sans être trop technique, le pouvoir de police, par définition, est toujours sous le contrôle du préfet. Même quand un maire exerce son pouvoir de police, il le fait sous le contrôle du préfet. Donc même si on donne tout au président de département, c'est toujours sous le contrôle du préfet.
Et on donne tout comment d'ailleurs? C'est un décret? C'est une loi?
C'est du réglementaire, vous l'avez bien vu d'ailleurs. On a changé la modulation sur la vitesse sur les routes sans passer par la loi. Donc évidemment, tout ça, c'est l'organisation de la police. Donc le pouvoir de police, ce sont bien sûr une compétence du ministre de l'Intérieur.
Ça fait quand même quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, vous l'avez évoqué, que le président lui-même est convenu qu'il pourrait y avoir un assouplissement. Est-ce que ça pourrait se faire avant la fin de cette année?
Oui, je crois que ce sont des choses qui peuvent aller vite, puisque dans un art d'exécution facile et rapide, il faut simplement prendre le temps, déjà de se mettre d'accord sur les objectifs de diminution du nombre des morts sur les routes, parce que là aussi, il peut intéressant d'avoir des objectifs départementaux, de le négocier, parce que beaucoup de collègues présidents de conseils départementaux sont volontaires, ils me l'ont dit. Après, il faut prendre le temps d'une négociation aussi peut-être plus globale, mais je pense que c'est un objet intéressant. Il a permis de faire re-rentrer dans l'espace public et le débat public cette question de la lutte contre la mortalité routière, et moi je m'en réjouis, puisque c'est véritablement un fléau dans notre pays.
Oui, vous l'avez dit, donc, avant la fin de l'année.
Je le souhaite en tout cas que ça aille vite.
Si vous le souhaitez, et on a bien compris que personnellement, vous êtes plutôt sur les freins, sur cette affaire d'assouplissement.
Non, je suis pragmatique là-dessus, une fois plus. J'ai dû annoncer des décès à des parents, j'ai ça en tête.
C'est une question de point de vue, hein. C'est
j'ai dû, Elisabeth Martichoux, j'ai dû annoncer des décès à des parents suite à des accidents de voiture, j'ai ça donc en tête.
Pour répondre au sentiment d'abandon, Sébastien Lecornu, le président Macron a dit qu'il fallait s'inspirer du Canada et créer des maisons de France. Pardon, mais il peut aussi s'inspirer de la France, parce qu'il y a déjà des maisons de service public.
Oui, donc c'est... ce ne sont pas tout à fait le même esprit, la même chose.
Pourquoi ?
Juste d'un mot quand même. Sur la sortie du Grand Débat National et dans les annonces du président de la République, il y a une véritable volonté d'un énorme acte de proximité. On va y revenir sans doute,
c'est
avec
le
décentralisation,
de ces maisons
etc.
De France,
en fait, vous avez deux aspects dans cet acte de proximité qui va venir aussi clore 10 à 15 années de gigantisme comme doctrine chez la plupart des élus, des grands élus notamment, ou du pouvoir technocratique, les grandes régions, les grandes intercommunalités, les grands cantons, les grandes communes. Et donc on va revenir à quelque chose de plus culturel aussi dans ce qu'est la France, c'est-à-dire une véritable proximité. Le canton en cela est d'ailleurs une échelle de proximité républicaine ancienne.
C'est et donc, ce qui va permettre, pardon, je lis le Gérard Larcher ce matin dans le Parisien, et il répond à Emmanuel Macron en disant « Je ne sens ni souffle, ni vision, ni stratégie qui permettrait de réparer les fractures qui touchent le pays. »
Oui, ça c'est
oui,
son
lui,
opinion.
Lui, il n'est pas d'accord avec vous.
Et comme vous avez surligné l'interview, je le vois, vous avez d'autres formules derrière qui dit qu'il y a des propositions qui sont intéressantes, qu'il y a des choses sur lesquelles le Sénat les demande depuis des années et qu'il est content que le président de la République
avance sur le sujet. Enfin, il est quand même sceptique sur la capacité de ces annonces à réparer la fracture par la proximité.
Gérard Larcher est un ami, néanmoins, ne vous aura pas échappé qu'il est président des Républicains du Sénat et donc il est un opposant
et donc, il parle
respectueux, certes, mais un opposant quand même.
Il parle donc, à ses élus.
La réalité, c'est qu'on a un besoin de mais évidemment qu'il parle à ses élus, on ne peut pas lui en vouloir. Il y a un besoin de proximité dans le pays, il est très fort. Proximité pour les élus locaux, on y reviendra peut-être. Proximité en matière de services publics. Et ça, pour le coup, garantir un niveau minimum de service public dans chaque canton de France, ou à moins de 30 minutes de voiture. Vous avez 2101 cantons au 1er janvier 2019. Aujourd'hui, vous avez 846 maisons qui existent déjà.
Il n'y en a pas 1300 ?
On dit qu'il y a... mais 1300, parce que vous en avez plusieurs par canton. 846, c'est le nombre de cantons qui sont déjà couverts. Donc ça vous donne la marge de progression importante
à
sur le sujet.
À quelle échéance, encore une
après,
fois,
attendez,
Sébastien
ce qui compte
le
aussi,
les Français veulent savoir quand est-ce que vous mettez ça en
musique. Je pense que les Français veulent d'abord savoir ce que c'est. Donc qu'est-ce que c'est que ces maisons ?
C'est
un maison... Mais non, c'est pas si facile à comprendre, parce que ça n'a jamais été fait dans la proportion dans laquelle nous souhaitons le faire. C'est réunir à l'échelle cantonale, à moins de 30 minutes de voiture globalement en temps moyen, tous les services de première nécessité. Les services de l'État, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire, encore que ça va appeler une belle réforme de l'État aussi, sur la présence territoriale, la question des cartes grises, la question bien sûr du cheminement vers tout ce qui a été dématérialisé et numérisé. Les prestataires de réseau, SNCF, Enedis, GRDF, l'ensemble des caisses, les caisses de retraite, les caisses d'assurance maladie, la caisse d'allocation familiale, l'ensemble des guichets des collectivités territoriales. Vous connaissez bien notre pays, Elisabeth. Martichoux, mettre toutes ces personnes parfois dans le même espace n'est pas forcément quelque chose de si évident. La Poste, bien évidemment, financer tout ça, avec notamment la Caisse des dépôts qui s'est prête à avancer. Il y a aussi évidemment la question de Pôle emploi, etc. Donc l'idée, c'est d'avoir un véritable service minimum de qualité, parce qu'il ne s'agit pas de labelliser des coquilles vides ou des machins un peu partout. Il faut fondamentalement qu'il y ait derrière une labellisation exigeante. Quand ? Comme on ne part pas sur une carte complètement blanche, je vous l'ai dit, avec ces 846 cantons qui ont déjà une base importante, souvent d'ailleurs portée par les collectivités territoriales, et qu'elles soient remerciées par les efforts importants qu'elles ont accomplis ces dernières années sur le sujet, on doit pouvoir continuer cette déclinaison à l'automne et poursuivre le déploiement jusqu'en 2022. Là aussi,
donc
il ne s'agit pas de bâcler. J'ai trop vu
important.
Sur ces maisons la volonté de vite couper le ruban et derrière des citoyens qui pouvaient être déçus de la qualité, parce que l'enjeu de la formation des personnels qui vont se retrouver dans ces maisons, dans ces espaces de France Service de proximité est un enjeu
vous
majeur.
Vous pourriez faire appel au privé d'ailleurs, parce que c'est comme vous l'avez dit, c'est pas facile de réunir dans un
Je
temps limité tous ces services et tous ces agents.
Aujourd'hui, il n'y a pas que les collectivités.
Donc, prestataires
regardez, souplesse aujourd'hui, puisque vous avez les collectivités locales qui emportent, vous avez des associations qui emportent, vous avez la Poste qui emporte. La Poste, c'est déjà un début du privé. Ouais. Donc oui, en partie, c'est possible. Mais là aussi, je pense qu'il faut faire à la carte avec le président de l'intercommunalité, le maire, le président du conseil départemental. Qu'est-ce qui est le plus adapté ? Vous avez des endroits, ça repose beaucoup sur des bénévoles très bien formés. C'est un modèle. Dans d'autres endroits, ce sont des agents municipaux. Là aussi, il faut le regarder avec beaucoup de pragmatisme. Avec Jacqueline Gouraud, on va s'y employer.
Conseiller, je voudrais aussi évoquer donc le nouvel acte de décentralisation. Mm-hmm. D'abord, c'est envisageable avant les municipales ou pas ?
Alors moi, je souhaite que tout ce qui relève du statut de l'élu, c'est-à-dire la capacité à aussi répondre à la crise de l'engagement qui est importante depuis des années et qu'on va continuer de connaître lors des prochaines élections municipales. Les questions liées à la révision de la loi NOTRe, qui est une loi qui a mis beaucoup de pagaille dans l'organisation territoriale du pays.
Avec les grandes régions.
Oui, grandes régions, intercommunalités, gestion des compétences. Moi, je souhaite que tout ça soit le clarifié avant les élections municipales pour permettre au prochain mandat municipal, à la personne qui va être élue maire ou réélue maire en mars 2020, d'avoir un paysage stabilisé.
Voter au Parlement ?
J'aimerais, ce n'est pas évident, ça va dépendre aussi beaucoup de Gérard Larcher, par exemple, dont vous parliez il y a un instant, puisque bien sûr
vous
le Sénat va avoir...
Vous lui lancez un appel ce matin ? Vous lui dites...
Je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de choses avec Gérard Larcher, à titre personnel, mais également sur les choix politiques qui sont faits autour notamment de la révision de la loi NOTRe ou du statut de l'élu. Moi, je vais beaucoup m'appuyer avec Jacqueline Gouraud sur les travaux du Sénat. Typiquement, si le Sénat accepte d'avancer vite sur ce sujet, comme pour la révision constitutionnelle d'ailleurs, avec la différenciation qui est quelque chose d'attendu aussi
dans
de la part
des
élus,
régions, hein,
on pourra aller vite. Exactement.
Ce qui... On va
ajuster,
dire, voilà, faire de la dentelle, faire du
comprenons
du cas
qu'on ne vit pas en Bretagne
régions.
Comme en Alsace, par exemple, et donc on peut s'organiser peut-être différemment en Bretagne qu'en Alsace, c'est un exemple concret. Là, fondamentalement, sur la décentralisation, Elisabeth Martichoux, ça prendra un peu plus de temps, puisque bien sûr, la négociation est plus complexe, il y a des questions liées au financement, aux ressources, potentiellement des transferts de compétences et donc d'agents publics, et donc là, pour le coup, on est sur un calendrier à 2020, mais fondamentalement, avant les élections municipales, ça sera beaucoup plus compliqué
plus
de le faire.
Plus rapide que quoi ?
Plus rapide que la loi NOTRe, plus rapide que le statut de l'élu.
Plus rapide que le statut de l'élu ?
Statut de l'élu, révision de la loi NOTRe, je souhaite que cela puisse être bouclé avant les élections municipales. Révision constitutionnelle, le président de la République l'a dit, il faut que ça redémarre à l'été, avec tout ce que cela comporte, y compris sur la différenciation ou sur le droit de pétition locale pour interpeller les élus, une assemblée délibérante pour nos concitoyens. Sur la décentralisation, le mécano technique et financier est plus délicat. Il faut donc faire du coût humain, prendre du temps et faire une décentralisation qui repart du citoyen et non pas d'ailleurs des élus ou de l'État, mais fondamentalement toujours repartir du citoyen usager du service public local.
Est-ce qu'on peut dire que les ministres venus de la droite, comme vous, Gérald Darmanin, évidemment Bruno Le Maire, ont perdu une bataille sur la question des retraites ?
Non. Je crois d'ailleurs que ministre de gauche ou ministre de droite, ça n'existe pas. Moi, j'adhère En Marche parce que j'ai adhéré à un projet, le projet du président de la République.
Ouais, donc, hier, d'ailleurs, dans Parisien, retrouvent... vous dites je suis plus de gauche parfois que certains strauss-kahniens. Alors, oui, les strauss-kahniens, ce sont les élus de gauche qui ont travaillé avec le ministre Strauss-Kahn, Stanislas Guérini, Cédric O.
Mais ce sont des amis par ailleurs. Je dis juste que je ne veux pas.
Philippe Brangeon, etc.
Je ne veux pas être caricaturé. J'ai été élevé dans une droite populaire. Je suis d'origine très
plus
modeste.
De gauche quand même que certains...
Je pense que le séguénisme qui a bercé mon enfance, Elisabeth Martichoux, à mon avis, le goût de l'intervention de l'État dans l'économie beaucoup plus fort que certains libéraux de gauche. C'est uniquement ça que je veux dire. Ça me paraît très respectueux que de le dire.
Et donc, vous plaidiez, en tout cas, Gérald Darmanin a fait bonne figure vendredi matin ici dans le studio avec Yves Calvi, mais quand même, il aurait voulu, par exemple, qu'on touche à l'âge légal ou au temps de travail obligatoire. La réforme Delvoye, elle est sanctuarisée, pas touche à l'âge légal.
Les ministres de Bercy sont là pour s'assurer des comptes publics. Et donc, dire qu'il faut travailler plus dans notre pays d'une manière ou d'une autre, par définition, est dans leur rôle. Et on ne peut pas en vouloir aux deux ministres qui s'occupent justement de la bonne gestion des comptes publics de ce pays que de dire quelques vérités si on se compare avec d'autres pays européens. Donc oui, il faut sûrement travailler plus. Et vous l'avez vu, le président de la République a commencé à préciser les choses entre âge légal à 62 ans, âge pivot potentiel sur lequel M. Delvoye devra justement s'exprimer. C'est le système de décote qui est un système qui permet d'inciter à travailler davantage.
Sébastien Lecornu, le 1er mai, c'est la fête du travail. Est-ce qu'il faut avoir peur d'aller manifester demain ?
Tout sera mis en œuvre pour que le droit de manifester puisse justement être préservé. Le ministre de l'Intérieur et Christophe Castaner et Laurent Nunez s'exprimeront avec le préfet de police de Paris cet après-midi à 16h30 pour détailler le dispositif, non seulement à Paris, mais également dans les grandes villes de province pour assurer la sécurité des manifestants. Après, le gouvernement va être ferme désormais, et encore plus peut-être qu'avant, sur justement celles et ceux qui veulent en découdre avec la République et n'en finissent pas de s'enfoncer dans une violence inacceptable.
Vous craignez la convergence des luttes, les gilets jaunes, les syndicats, les black blocs anticapitalistes ?
Les syndicats sont des gens responsables, raisonnables, qui ont toujours un service d'ordre lorsqu'ils organisent une manifestation. Il y a peu de manifestations syndicales qui dégénèrent, ils savent les organiser, ce sont des professionnels, et même les syndicats les plus opposés au gouvernement sont des syndicats responsables qui travaillent en bonne intelligence avec les services de l'État. Non, ce qui est à craindre, ce sont toujours les quelques fous et voyous qui, évidemment, Black Bloc, à un moment donné, pendant la manifestation, sortent une cagoule noire et se mettent à tout casser. Et là, bien sûr, l'intervention est parfois plus délicate pour les forces de l'ordre parce qu'ils se sont immiscés parmi les gens raisonnables. Et donc là, il y a un enjeu majeur d'exécution de l'ordre public et du maintien de l'ordre. Mais le préfet de police de Paris est mobilisé avec le ministre de l'Intérieur sur ce sujet.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La première chose que vous allez faire dans les jours qui viennent pour mettre en œuvre et mettre en musique les annonces présidentielles, en ce qui vous concerne, vous, ministre des Collectivités
Territoriales, discrètement, puisque la période de réserve avec les élections européennes arrive. Mais donc, je vais multiplier un certain nombre de rencontres avec les associations d'élus, avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale, pour arriver justement début juin à ouvrir une concertation plus globale avec le Premier ministre lors de la Conférence nationale des territoires qui aura lieu la première semaine de juin.
Organisateur du grand débat.